Bienvenue chers auditeurs sur Fréquence Mistral pour votre nouveau rendez-vous mensuel Locaux du Bio en partenariat avec la coopérative Biocoop Le Grenier. Chaque mois, nous y discuterons agriculture biologique et tout ce qui gravite autour. Production locale, économie sociale et solidaire ou bien encore écologie. Tout pour devenir locaux du bio. Pour aborder ces thématiques et leurs enjeux, nous recevrons les acteurs et les actrices qui les portent au quotidien, des producteurs et productrices ou encore des membres d'associations du territoire. Pour cette première édition, nous accueillons Camille Danel, chargée de communication au sein de l'équipe de Biocoop Le Grenier. Bonjour Camille.
Bonjour.
Donc, durant l'heure qui vient, tu vas nous présenter ta structure et son évolution, son changement de statut, puis nous terminerons sur une note plus légère avec une recette de saison. Pour commencer, une première question. Comment a commencé l'aventure du grenier, Camille ?
Eh bien, d'abord par une association, l'association Carline Agap. C'était dans les années 80. Il y avait des consommateurs militants qui étaient motivés ensemble pour la défense de l'environnement, pour la consommation locale et sans pesticides, ainsi que le tri des déchets. Et ils ont créé ensemble l'association Carline. À l'époque, pour l'alimentation, en tout cas, c'était le grand boom des super et des hypermarchés. L'agriculture bio, c'était pas vraiment connu, ça restait un marché de niche. Et il y avait justement pas beaucoup d'alternatives à l'agriculture conventionnelle. Donc pour manger autrement, il fallait aller soi-même chez les paysans. C'est comme ça que le grenier a d'ailleurs commencé, dans le garage d'une bénévole au Rochasson. Il y avait des producteurs qui venaient par exemple avec leurs patates du Val-Gaudemar, d'autres qui venaient avec leur farine, et les membres de l'asso se servaient avec leurs propres contenants.
Est-ce que tu sais un petit peu comment s'est constitué son réseau de producteurs, comment elle a réussi un peu à fédérer autour de son projet ?
Eh bien, c'est justement comme ça. On a quand même pas mal de producteurs dans le département des Hautes-Alpes qui ont toujours été en bio et qui l'ont fait d'une manière militante, qui ont refusé le système productiviste de l'agriculture conventionnelle. Et donc, le bouche à oreille est passé et c'est comme ça qu'ils ont trouvé un lieu de distribution pour leurs produits sur Gap, pour éviter en fait que les consommateurs, comme je disais, aillent chercher les produits directement à la ferme. Ça permettait de faire un autre relais.
Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le monde du bio, est-ce que tu sais à peu près à quelle époque a été créé le label bio ?
Il est apposé à partir de 1985 sur les produits qui, du coup, respectent le cahier des charges élaboré par le ministère de l'Agriculture français, c'est-à-dire pas de pesticides et d'engrais chimiques. Le label européen, donc la feuille avec les petites étoiles, lui a été créé en 2010. Depuis 2010, du coup, le label bio européen prévaut sur le label bio français. Donc, si on continue de mettre le petit label AB, c'est juste par souci de communication et de visibilité pour les consommateurs qui le connaissent. Sinon, il n'y a plus rien de légal derrière.
Est-ce qu'historiquement, les Hautes-Alpes, c'est un département où il y a une agriculture biologique plus développée qu'ailleurs ?
Bah déjà, faut se dire que avant la Seconde Guerre mondiale, tout était bio. Les pesticides, oui. Ça n'existait pas. C'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale où il fallait justement renourrir la population, où on a vraiment créé l'industrialisation de l'agriculture. Il fallait équiper les paysans. Il y avait une vraie demande là-dessus parce qu'il y avait beaucoup de pénuries. Fallait nourrir la population. Il y avait un vrai enjeu au niveau national de sécurité alimentaire pour tous. Et les Hautes-Alpes, nous, on est un territoire de montagne, donc qu'on a été à la marge de l'agriculture conventionnelle, puisque vu que c'est des petites parcelles qui sont un peu éparpillées, difficiles d'accès, on ne peut pas raser les forêts et créer des grands champs comme ça a été le cas dans la Beauce ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc ça, c'est vraiment typique de notre territoire de montagne. Après, faut savoir par exemple que pendant des années, on a reçu les bêtes d'élevage de la plaine, donc du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, de l'ensemble de la Provence, qui venaient pâturer l'été ici. Et ça a été compliqué pour les pâturages d'altitude, puisque le piétinement, ces milliers de bêtes qui venaient ont au contraire détruit une partie du paysage et il a fallu ensuite replanter, etc., parce que ça a créé des gros problèmes en altitude. De la déforestation a créé des énormes problèmes en altitude pour nos villages et tout ça. Il y a un livre qui est passionnant là-dessus, qui raconte bien cette problématique entre l'équilibre entre la nature en montagne et l'élevage intensif, par exemple. C'est sur le village de Chaudun, qui a été détruit en partie à cause de ça. Ouais. La montagne blessée.
La montagne blessée, effectivement. Il y a même eu un spectacle qui a été tiré de ça.
Ouais.
Effectivement. Eh bien, merci pour cette recontextualisation. Pour revenir sur, du coup, la création des magasins Biocoop, comment s'est opérée un peu la professionnalisation de ces équipes du grenier qui étaient naissants, on en parlait juste avant?
Eh bien, déjà, dans ce petit garage, les consommateurs venaient de plus en plus nombreux et il a fallu se professionnaliser. Donc, après le garage du bénévole, il y a plusieurs petites échoppes qui ont ouvert, notamment une échoppe rue des Jardins, puis place Jean-Marcelin. Et ensuite, les bénévoles ont décidé de créer un vrai magasin et du coup de créer le groupement d'achat du grenier. Il a été officialisé en 1987. C'était un petit magasin réservé aux sociétaires, rue du Connétable à Gap.
Et à quoi ressemblaient les premiers magasins qui ont ouvert sur notre territoire ?
Ils étaient tout petits, tellement petits qu'on pouvait pas rentrer avec une poussette. Il y avait une ambiance de grenier à grains. Le stock, par exemple, était à la cave et c'était très compliqué de monter et descendre les produits. Il y avait au début qu'une seule salariée qui gérait tout, la caisse, les achats, les approvisionnements. Le grenier était organisé du coup avec un conseil d'administration et des bénévoles et ils étaient extrêmement présents pour donner un bon coup de main au magasin.
Comment s'est fait le passage de cette petite épicerie militante tenue par des bénévoles avec assez peu de moyens, tu le disais, à la Biocoop telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est aujourd'hui un supermarché comme un autre quasiment?
Oui, comme un autre, mais quand même un peu différent. Justement, je vais expliquer pourquoi. Déjà, donc, dans les années 90, l'équipe du grenier voulait que la bio soit visible dans la ville avec une vitrine dans un lieu de passage. Et ils ont transformé, à cette époque, le groupement d'achat en une coopérative de consommateurs qui, cette fois-ci, était ouvert à tous. Ils étaient convaincus que la bio allait se développer et ils sont pas trompés. Le magasin ouvert en 1992, du coup, avenue d'Embrun, était beaucoup plus spacieux que les petites échoppes d'avant et il a été très très vite saturé. Au même moment, dans les années 90, le grenier s'engage au sein de la coopérative Biocoop. Donc Biocoop, juste pour resituer, c'est à la base un réseau de coopératives de consommateurs comme la nôtre en fait. Il faut savoir qu'au grenier, les bénévoles qui géraient les approvisionnements, donc au tout début c'était que des producteurs locaux et puis face à la demande il a fallu aussi trouver des fournisseurs pour du riz, pour du café, pour du chocolat, pour plein d'autres produits, des produits ménagers, et après des couches, etc. Donc, ils faisaient appel à des grossistes. Mais les grossistes, déjà à l'époque, on n'avait pas trop confiance dans les produits qu'ils distribuaient. Est-ce que ça vient pas de l'autre du monde, de l'autre bout du monde? Est-ce que c'est bien respectueux de l'environnement? Est-ce que c'est bien respectueux des travailleurs? Est-ce que pour les éco-produits, notamment les produits ménagers, etc., bah, les produits dedans sont pas toxiques, etc.
Vous souhaitiez avoir de vraies garanties.
Exactement.
Sur la provenance de tout ce que vous pouviez proposer à votre clientèle, en fait.
Exactement. Même si c'est bio, nous, au grenier, on a toujours eu à cœur d'aller au-delà du bio. Mm-hmm. Parce qu'on sait que le bio, ça reste un règlement qui peut évoluer en bien comme en mal. Et nous, on a toujours eu des exigences très fortes en termes social, environnemental.
Et ça fait partie de l'engagement militant, donc on va aborder un petit peu plus tard dans ce programme.
Exactement, ouais. Et en fait, Biocoop, c'est né comme ça, par plusieurs coopératives de consommateurs comme la nôtre, qui se sont dit, et si on construisait nous-mêmes notre propre réseau d'approvisionnement? C'est comme ça que c'est né Biocoop, avec une charte, des cahiers des charges très exigeants. Voilà. Le grenier a adhéré au réseau Biocoop pour ça, pour faire partie d'un réseau de magasins qui sont engagés pour une bio qui va plus loin que les standards.
Donc la charte est née avec le passage dans le réseau Biocoop.
Exactement, ouais. Ouais. En fait, l'ensemble des magasins qui adhèrent au réseau Biocoop doivent signer cette charte.
Et ça, donc, c'était dans le courant des années 90. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, en 2001, on a ouvert le magasin rue Alphonse Daudet à Gap Sud, que l'on connaît toujours. Et ensuite, dans les années 2010, il y a eu l'explosion de la bio. Et notre développement s'est fortement accéléré, avec un deuxième magasin qui a ouvert Zone Tokoro en 2013, puis dans le centre-ville de Gap, rue Carnot, en 2015, et enfin le petit dernier à Tallard en 2017.
Et aujourd'hui, il y en a plus que deux sur ces quatre qui sont ouverts. On en parlera tout à l'heure de ce moment où il y a eu aussi une crise du bio. Nous allons faire une première pause musicale avec un titre de Assassin, le rappeur Assassin, un titre qui s'appelle « Écologie, sauvons la planète ».
Debout, évaluer l'envergure des problèmes. Ceci n'est pas une demande, mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'homme organise sa destruction, analyse
sur la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle personne n'est autonome, car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas, car les victimes sont les fautives. Cette fois, comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit, comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est dur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise, et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non. Encore raser des forêts entières, en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiquement au plus bas? Pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Plus on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus l'on respecte de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Ara, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la ville dans le pays, la disparition d'espèces animales et le culte de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non. Elles vont en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme de croire en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt les chèques sur la planète, sur la planète, sur la planète.
Écoutez Assassin et son titre Écologie, sauvons la planète, un hymne militant par un pionnier du rap français qui fait tout à fait écho à vos engagements au grenier. Nous allons maintenant parler de vos valeurs. Alors qu'est-ce qui est au cœur du projet du grenier depuis ses débuts ?
Eh bien, comme on en a déjà parlé Ingrid, je dirais le militantisme. Puisque le but premier du grenier était de développer l'agriculture bio, locale et paysanne. Notamment en soutenant les producteurs locaux. Avec, par exemple, la création du marché de bio de Gap Sud, les militants du grenier ont beaucoup poussé à sa création. Ou encore, la création du label Les Produits du Lagopède, qui à l'époque, dans les années 80-90, valorisait les producteurs des Hautes-Alpes.
Je ne savais pas du tout que ce marché de Gap Sud était à l'initiative des mêmes personnes qui ont créé le grenier.
Eh bien, en partie, après, le monde militant à Gap est assez petit, donc on retrouve un peu les personnes, voilà. Nous, même aujourd'hui, on a pas mal de nos sociétaires qui sont encore très investis à la SAPN ou encore à la boutique Échangeons le Monde. Donc c'est un petit milieu, mais qui est encore très très actif.
Et parmi ces engagements, il s'arrête pas qu'à l'alimentation, tu le disais tout à l'heure, il y a aussi des engagements autour de... On le disait, on parlait de la SAPN, on parlait de ces associations qui militent dans ce sens à Gap. Vous aussi, vous avez des engagements environnementaux, des engagements sociaux.
Bah oui, carrément. Les bénévoles du grenier, qui ont toujours été en lien avec des assos locales, leur engagement premier a perduré. Et aujourd'hui, on soutient aussi d'autres associations, par exemple Mobilidée, par exemple le Café des Familles, l'UDES, donc c'est l'Union des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les Hautes-Alpes.
Oui, vous êtes partenaire sur de nombreux événements qui ont lieu sur le territoire.
On essaye, malgré nos difficultés économiques récentes, on essaye de faire à hauteur de nos moyens. Nos clients continuent de soutenir cela, puisqu'on organise aussi, par exemple, des collectes biosolidaires. Donc, on invite les associations, donc la Croix-Rouge et le Secours Populaire de Gap, à venir faire des collectes en magasin. Nos clients donnent des produits et nous, en plus, on reverse la marge des produits. Du coup, ça fait un don financier à ces associations.
Tu parlais de difficultés économiques. Est-ce que tu peux nous parler de ce phénomène et des répercussions qu'il a pu avoir sur votre activité ? Est-ce que le bio est en crise dans les Hautes-Alpes ?
Le bio est en crise dans les Hautes-Alpes, mais il est aussi en crise dans toute la France, puisque ça a commencé au moment de la pandémie du Covid. Donc, nous étions tous confinés chez nous. Et à ce moment-là, il y a des enjeux notamment la production locale et sur la souveraineté alimentaire qui ont été beaucoup d'actualité. Et on pensait que suite au Covid, il y aurait une prise de conscience forte, notamment pour l'alimentation, que les gens consommeraient plus local et plus bio. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, nous avons vécu, suite au Covid, des années de décroissance. Donc, il y avait beaucoup moins de fréquentation et les achats de nos clients ont diminué. Donc, nos 4 magasins en ont pâti.
Il y a d'autres facteurs aussi, comme l'inflation, par exemple.
Et oui, également l'inflation et aussi le doute sur la légitimité du label bio, par exemple. Puisque, en fait, dans les années 2000-2010, il y a eu du coup un boom du bio. Les supermarchés classiques se sont emparés du phénomène, ont créé des gros rayons bio, mais sans forcément avec une éthique derrière. Et les clients ne sont pas bêtes, ils ont bien remarqué que oui, des produits qui viennent de l'autre bout du monde, ils ont beau être estampillés bio, ça change pas qu'ils ont un impact environnemental qui reste fort. Et or, chez nous, on n'a pas du tout la même éthique et la même exigence, mais ça, forcément, les consommateurs voient le label bio dans son ensemble.
Oui, l'idée était de surfer sur une vague quelque part.
Exactement. Et là, on est dans le creux de la vague.
Mais d'ailleurs, sous le label bio, on a ce label AB, mais il existe aussi d'autres petits labels. Je pensais au label Déméter, des choses comme ça. Est-ce que ça rentre aussi dans le bio ou c'est complètement autre chose?
Oui. Alors, le label Déméter, c'est pour la biodynamie. Et la biodynamie, ça, c'est une pratique qui est dans l'agriculture bio. Donc, pour avoir le label Déméter, il faut avoir d'abord le label bio.
D'accord. Donc ça, ce sont des sous-labels, on va dire.
En tout cas, ils le demandent. Pour avoir le label Déméter, il faut avoir le label bio d'abord. Il y a d'autres labels que nous, on autorise au grenier sans avoir le label bio. C'est notamment Nature et Progrès. Parce que Nature et Progrès, c'est plus ancien que le label bio. Et pour eux, ils ont vraiment une exigence au-dessus. C'est des tout petits producteurs, des petites productions, et eux, ils se labellisent entre pairs. Donc, c'est-à-dire, ce sont les producteurs entre eux qui rencontrent les autres qui souhaitent avoir ce label-là pour leur donner. Mais ils ont une exigence qui va bien au-delà du bio classique. On peut tout retrouver sur leur site internet si besoin.
Pour revenir sur l'évolution des BioCop sur Gap après le Covid, on parlait justement de cette crise du bio un peu généralisée. Et là, sur ces dernières années, est-ce que vous avez réussi un petit peu à relever la tête, à voir un petit peu la suite ?
Oui, bah oui, bah en fait, à l'époque, on était du coup à 4 magasins et notre développement du grenier, bah, il faut se l'avouer, hein, il a été mal maîtrisé. C'est-à-dire que nos 2 derniers magasins, donc le magasin rue Carnot et à Tallard, leur ouverture a été trop rapide et ils ont eu du mal à trouver leur clientèle. On a eu un équilibre économique qui était compliqué à atteindre. On était déjà plus d'une cinquantaine de salariés au grenier. Et suite au Covid, enfin suite à la crise qu'on a connue après le Covid, eh bien on n'a jamais réussi à revenir à un équilibre pour que la coopérative soit pérenne. Donc il a fallu notamment malheureusement fermer nos 2 derniers magasins, du coup celui de rue Carnot et celui de Tallard. Oui. Et suite à cela, depuis on a fermé les magasins en fin mars 2023. On est content parce qu'on a fait au final une bonne année 2023 où on finit enfin en positif. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Donc c'est un soulagement global pour les collègues. Et puis on est content parce que les clients reviennent en magasin, qu'il y a une bonne dynamique, qu'il y a une bonne ambiance et que ça se passe bien. Donc on est très content là aujourd'hui pour l'avenir du grenier.
Il y a encore de nouvelles évolutions à venir. On va en parler juste après la pause musicale suivante. Ce sera le morceau de Billie Eilish, All the Good Girls Go to Hell.
My Lucifer is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Lucifer is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say.
Vous écoutez Locaux du Bio, le rendez-vous des agités du local sur Fréquence Mistral.
Bienvenue dans Graines de Scope, le podcast qui plonge au cœur de la transformation d'une coopérative de consommateurs vers une scope. Je m'appelle Juliette et je suis ici pour vous emmener dans un voyage passionnant au sein du grenier où l'aventure bio rencontre l'engagement coopératif. De l'épanouissement personnel à la renaissance collective, chaque épisode vous transporte dans les coulisses de cette transition. Venez découvrir avec nous les défis, les réussites et les moments uniques qui jalonnent ce chemin vers une nouvelle façon de travailler et de vivre ensemble. Préparez-vous à plonger dans le monde captivant de la SCOP, où les graines du changement sont plantées et cultivées avec passion. Vous êtes prêts ? Bienvenue dans Graines de SCOP.
Nous venons d'écouter un extrait du podcast Graines de Scope concocté par l'équipe du Grenier. Donc ce podcast, tu peux nous en parler un petit peu, Camille ?
Oui, bien sûr. Donc on entend ma collègue Juliette, Juliette qui travaille, comme elle le dit, à la caisse du magasin de Tokoro. En fait, c'est l'occasion pour nous de raconter un petit peu ce qu'on vit de l'intérieur, le projet de la Scope vécu par les acteurs, donc vous, les salariés qui en font partie. Et c'est une manière pour nous de parler de manière ludique simple à nos sociétaires notamment, vu qu'on est toujours une coopérative de consommateurs aujourd'hui avec plus de 2000 sociétaires, de leur parler simplement chaque mois des défis à relever, de tout ce qui se passe pour la création de la future SCOPE.
Et cette SCOPE, tu peux nous en parler de ce projet d'évolution, de ce projet de transition quasiment?
Oui, eh bien, en fait, ça fait plusieurs années qu'on parle de ce projet et la fermeture des magasins, ça a vraiment été le facteur déclencheur qui a permis une vraie résilience des collègues et une envie de se mobiliser tous ensemble et de se réapproprier notre outil de travail, donc les magasins.
Et qu'est-ce que c'est une SCOP, en fait, juridiquement? Dans quelle mesure les salariés prennent part à ce projet-là?
Alors, une SCOP, ça reste une coopérative. Donc, ça répond aux grands principes des coopératives, notamment les décisions démocratiques, c'est-à-dire que dans une SCOP, tout comme une COP de consommateurs, une personne égale une voix. Donc, peu importe, c'est pas du tout comme une société capitalistique, puisque peu importe le nombre de voix, le nombre de parts sociales qu'on a, on n'a qu'une seule voix au chapitre lors de l'AG annuel.
Donc, par exemple, le directeur aura autant de poids qu'un salarié qui, par exemple, est à la caisse ou autre.
Exactement, oui. Le principe, c'est qu'il faut prendre des parts sociales pour être associé. Et aujourd'hui, on a 21 collègues sur 35 qui désirent être salariés associés dans le projet. Donc, c'est une super nouvelle. Ça montre l'engouement et l'intérêt que l'ensemble des collègues portent à ce projet. Et puis, en plus, on se sent héritier du projet militant de base du Grenier qui avait été créé il y a plus de 30 ans. Puisqu'à la toute base, à la création du Grenier, c'était un noyau très actif d'une trentaine de personnes qui étaient ultra investies. Aujourd'hui, c'est vrai que nos consommateurs sociétaires, ils sont plus devenus des clients que vraiment des consommateurs engagés. On a notre conseil de surveillance qui est très mobilisé, qui vient chaque mois, on fait des réunions, etc. avec eux. Mais l'ensemble de nos sociétaires sont forcément moins investis puisque déjà, il y a le nombre de personnes et ils se connaissent plus comme avant et les salariés se sont professionnalisés. Donc avant, c'était les sociétaires qui venaient faire les inventaires, faire la mise en rayon, etc., faire un peu de caisse. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Du coup, c'est vrai qu'il y a le sens de l'investissement au Grenier qui est plus du tout le même. Et c'est pour ça que les salariés, en se réappropriant l'outil de travail, vont pouvoir aussi se réapproprier les actions militantes que peuvent mener le Grenier.
Et dans ce projet de SCOP, du coup, tu parlais des sociétaires dans le projet de coopérative tel qu'il était avant. Est-ce que les sociétaires auront toujours un poids dans ce projet-là ou ce sera complètement différent? On n'aura plus cette possible implication aussi des sociétaires, donc des clients aussi, qui viennent chaque jour au magasin?
Tout reste à construire. On fait des réunions avec justement nos sociétaires pour leur présenter le projet, les avancées du projet et à voir après si on va toujours proposer des actions militantes où les sociétaires pourront s'investir. Ça, c'est clair. Ça reste quelque chose d'important pour nous de pouvoir y impliquer nos consommateurs.
Donc, en tout cas, on est sur une note très positive pour l'avenir. On est sur, encore, tu disais, un projet où tout est à construire. Donc, énormément de choses qui vont se passer là pour 2024 et les années qui vont suivre.
Et oui, en effet, on espère notamment pouvoir continuer à faire des bons résultats comme c'est le cas cette année, à pouvoir améliorer nos magasins. Ça, c'est un vrai enjeu, notamment le magasin de Daudet qui commence à être pas mal vieillissant. Nos objectifs, c'est de faire plus de liens avec les producteurs locaux, donc avoir encore plus de local dans nos magasins. Aujourd'hui, c'est à peu près 25% de la part de notre chiffre, c'est des produits locaux et on souhaite aller encore plus loin. On souhaite aussi améliorer le vrac, améliorer aussi l'accueil des clients, améliorer le bien-être, le vivre ensemble, l'inclusion, améliorer les salaires aussi. Ce qui est intéressant dans une SCOP, c'est qu'on a le partage des bénéfices qui est organisé. Bon, aujourd'hui au Grenier, vu que ça fait plusieurs années qu'on était en difficulté financière, on n'a pas eu à se poser ces questions. On espère qu'à l'avenir, le partage des bénéfices sera possible. Et il y a une part qui est bien sûr mise en réserve pour la pérennité de la coopérative, mais il y a une partie qui est distribuée de manière égale entre tous les salariés, qu'ils soient associés ou non, qu'ils soient responsables ou non. Et ça, on trouve que c'est une super avancée pour notre entreprise.
Tout à fait. Il y a un bel exemple aussi pour d'autres structures qui souhaiteraient prendre le même chemin.
Exactement. Il y a quand même pas mal de SCOP dans les Hautes-Alpes. Et les SCOP, c'est vraiment, ça peut toucher vraiment tous les secteurs. Il y a des SCOP dans le bâtiment. Il y a des SCOP. Il y a un spa, par exemple, qui est en SCOP aujourd'hui. Il y a d'autres biocop qui sont en SCOP. Celle de Briançon, notamment, donc l'épine vinette. Et celle de La Jaune Chat dans le Champsaur. Je salue ses collègues. C'est vraiment un modèle d'entreprise qui est super intéressant parce qu'il permet une pérennité de la structure. Il permet aussi une implication forte de ses salariés et un partage de la valeur.
Et aussi, c'est aussi une manière d'être au territoire et d'être au commerce aussi et de réinventer un peu les manières de faire du commerce, le rapport aux gens qui font notre alimentation aussi sur ce territoire.
Exactement, oui.
Donc vous êtes toujours dans l'émission Locaux du Bio sur Fréquence Mistral Gap en compagnie de Camille Danel, chargée de communication à Biocoop Le Grenier. Et nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette émission sur une note pleine de légèreté. Que nous as-tu préparé, Camille, pour cette dernière partie ?
Eh bien, une salade de saison. Donc c'est une salade hivernale au potimarron, au pois chiche et au tofu grillé.
Cette recette, tu peux un petit peu nous la détailler ?
Eh bien, déjà sur les ingrédients, pour préparer cette recette, il faut bien sûr un beau potimarron, 240 g de pois chiches, 200 g de tofu, donc du tofu nature, un petit peu de miel, donc 2 cuillères à soupe. Également pour l'assaisonnement, il faut 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, du thym, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à café de gingembre, 1 cuillère à café de moutarde, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique et 3 cuillères à soupe d'huile de sésame. Un petit peu de poivre et du sel. Ah, donc tout d'abord, en tout premier lieu, il faut découper le tofu en petits bâtonnets de 3 cm environ et les faire mariner dans un mélange de sauce soja et gingembre pendant 30 minutes en remuant régulièrement. Pendant ce temps-là, faut laver, vider et couper le potimarron en tranches. Disposer ces tranches sur une plaque allant au four, bien sûr la recouvrir de papier cuisson. On les badigeonne d'un mélange d'huile d'olive, de miel et de thym et on enfourne pendant 20 minutes. À 200 degrés. Ensuite, il faut faire cuire le tofu dans une poêle qu'il faut bien chauffer auparavant avec un petit peu d'huile d'olive et faire griller tous les petits bâtonnets sur toutes les faces, tout simplement. Et là, après, c'est juste le montage. Donc, préparer la vinaigrette. Donc, la vinaigrette, c'est la moutarde, le vinaigre balsamique, l'huile de sésame, l'huile d'olive. Et au moment de servir, on peut égoutter les pois chiches, les mettre directement dans les assiettes ou les faire griller auparavant dans la poêle avec le tofu. C'est encore meilleur. Disposer quelques petites tranches de potimarron rôti, les petits bâtonnets de tofu grillé, on arrose de vinaigrette et on se régale.
Ça a l'air délicieux. Merci Camille pour cette recette. Vous pourrez également retrouver les mois qui viennent des astuces ou encore découvrir un légume oublié ou bien encore les bienfaits d'une huile essentielle. Ce sera dans les prochaines éditions de notre nouveau programme. Donc c'était Locaux du Bio, première édition. On se retrouve le mois prochain, toujours avec toi Camille Danel, et cette fois-ci tu viendras avec une invitée.
Oui, c'est Marlène de l'association Réutilise Alpes, donc une association qui milite justement pour la diminution des emballages et du coup de nos déchets, puisque le mois prochain, c'est le mois spécial sur le vrac.
Eh bien, on a hâte de vous retrouver toutes les deux le mois prochain. Merci Camille.
Je t'en prie, merci beaucoup. Merci à vous.